France Inter, le 18-20.
On l'a tous trouvé très chouette au téléphone sonné utile, surtout cette une de l'équipe MAG sur l'homophobie dans le sport. On s'est dit qu'il fallait qu'on en parle, nous aussi, un de ces quatre. Peut-être on profiterait de la Coupe du Monde de foot le mois prochain ou de la journée contre l'homophobie la semaine prochaine. Et puis comme tout le monde, on a aussi cliqué. Twitter n'est pas un modèle de modération, c'est clair, croyez-moi, j'en sais quelque chose, mais ce qui a tourné tout de suite après que le journal ait montré sa une, ce sont des remarques gentilles, des gens contents, et puis aussi des flots d'injures, de menaces, de désabonnements, des saloperies, disons les choses clairement, sans compter ce kiosquier qui a refusé de dépacter les journaux et qui doit d'ailleurs le regretter puisqu'il a été suspendu par l'entreprise de distribution qui gère le kiosque. Bref, il y a plus que besoin de traiter ce sujet, de se rappeler que la réalité dans le sport est très loin d'être rose. Combien d'athlètes sont ouvertement gays ? Cherchez, il n'y en a pas en activité. Ou alors donc ils sont à la retraite. Pour la plupart en tout cas, je vois déjà des têtes qui font, faut voir. Mais pour la plupart en tout cas, et le plus souvent en tout cas, pas chez nous ou en France ou à peine. Chacun fait évidemment ce qu'il veut, mais quand on risque des moqueries, voire des coups pour certains, on peut comprendre ceux qui préfèrent ne rien dire. Y a-t-il une autre forme de discrimination quand on parle des lesbiennes? On a un peu le sentiment qu'elles parlent plus facilement. En préparant cette émission, je me suis fait rappeler alors en quelque sorte, non, ça n'est pas plus facile pour les filles. Combien de grands sportifs, dans le foot notamment, dénoncent réellement et correctement les chants homophobes, les attitudes homophobes? Et quand on est amateur, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que tout cela est tout aussi difficile ou peut-être même encore plus difficile? On parle de tout cela ce soir ensemble et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Pierre, c'est vous le premier. Bonsoir à vous, Pierre.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Moi, je voulais dire que j'ai remarqué que dans le football notamment, on a déjà vu beaucoup de racisme dans les stades, de la part des supporters notamment, et il me semble que des mesures ont été prises par les instances du foot dans ces cas-là. Alors je voulais juste savoir s'il y a des équivalents pour l'homophobie, est-ce que il y a déjà des mesures qui ont été prises pour l'homophobie dans les stades en France?
Merci beaucoup Pierre pour cette entrée en matière et pour discuter de tout ça, pour discuter de ça et d'autres choses d'ailleurs d'ici à 20h. Cécile Chartrain est avec nous, bonsoir. Vous êtes cofondatrice et présidente de l'association Les Dégommeuses qui lutte contre le sexisme et les LGBT-phobies dans le sport. Bonjour Imanol Korkostegui.
Bonjour.
C'est bon? C'est un hasard. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'équipe MAG et vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de ce journal et cette une. Bonsoir Manuel Picot, vous êtes co-président des Gay Games 2018. Et bonsoir à vous Johan Lemaire qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Voilà, je vous entends. Vous êtes footballeur amateur, vous êtes président de l'association Foot Ensemble. Vous avez co-réalisé un documentaire qui s'appelle Footballeur et Homo au cœur du tabou. Ce sera diffusé sur France 2 dans Infrarouge le 14 mai prochain. Et vous avez beaucoup de choses très concrètes à nous dire là-dessus. Manuel Picot, pour commencer avec vous sur cette remarque de Pierre, effectivement, on a l'impression qu'on a beaucoup progressé autour du racisme. Désormais, on trouve anormal et heureusement d'entendre des remarques racistes dans les stades. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas exactement la même chose pour ce qui est de l'homophobie?
Attendez,
parce que quelqu'un est en train de vous montrer le micro et ça vous gêne et je comprends, je suis désolé. Allez-y, je vous en prie.
Effectivement, il y a une prise de conscience en fait aujourd'hui que l'homophobie, comme le racisme, comme le sexisme, n'a pas sa place dans le monde du sport, dans les stades. La Ligue est en train de prendre des vraies mesures.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, des vraies mesures? Parce que est-ce qu'on est capable d'arrêter, disons-le franchement, est-ce qu'on est capable d'arrêter une foule qui crie des horreurs pendant un match de foot?
On est en mesure de le faire pour le racisme. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire pour des actes homophobes, des chants homophobes par exemple. Il y a eu un club qui a été un club de supporters qui a été condamné la semaine dernière, me semble-t-il, à plusieurs milliers d'euros à Grenoble pour des bannières homophobes dans un stade. Donc c'est un vrai progrès qui a émergé ces dernières semaines.
Quand on entend semaine, on a quand même un peu envie de Cécile Chartrain, je vous voyais lever le doigt. Oui. Je disais ces dernières semaines parce que c'est hier quoi.
Oui, je suis un petit peu moins optimiste que Manuel, notamment parce qu'on a pu entendre les propos de Nathalie Bois de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnelle, qui s'est exprimée sur des chants homophobes qui avaient été entendus récemment dans des stades français. Et elle nous a dit que ça faisait partie du folklore, de la culture des supporters. Donc je pense que c'est quand même très problématique. C'est un langage, une sémantique qui en plus tend à diviser un peu les classes populaires, à les opposer au reste de la population. Donc on parle toujours des supporters, des pauvres, des gens des banlieues qui seraient plus homophobes que les autres. Alors que, au fond, on sait bien que l'homophobie existe dans toutes les couches de la société. Et d'ailleurs, la Manif pour tous nous l'a bien rappelé.
Yoann Le Maire, je me tourne vers vous parce qu'il y a ça dans votre film que j'ai eu la chance de voir. Moi, il y a un extrait où, au fond, comme le disait Cécile à l'instant, mais tout ça, c'est du folklore. Donc, c'est pas vraiment grave. Fermez les guillemets, en fait. On entend beaucoup ça dans les stades.
Oui, c'est du folklore, hein. Pour eux, pour les supporters qui chantent ça, c'est du folklore. Je rappelle que Nathalie Bois de la Tour n'a pas tout à fait dit ça, elle avait dit c'est considéré comme du folklore, folklore, néanmoins c'est intolérable et il faut faire des choses, il faut sensibiliser, faire des choses. Donc Nathalie Bois de la Tour, on peut pas lui reprocher de banaliser l'homophobie, loin de là. Par contre, pour les supporters, oui, il y a un problème avec ça, c'est-à-dire que quand on insulte un noir, qu'on l'insulte, qu'on fait des cris de singe, c'est ciblé, on s'en prend pour lui parce qu'il est noir, parce qu'il est ce qu'il est, voilà, tout simplement. Pour l'homophobie, les spectateurs, ils pensent que c'est des injures, mais méprisantes. Alors bien sûr, c'est l'homophobie, on est tous d'accord avec ça, bien évidemment, mais ils n'ont pas le sentiment de s'en prendre à une personne qui est homosexuelle. C'est là d'où est le problème et qu'il faut absolument sensibiliser les gens. Quand ils insultent l'arbitre d'enculé de PD, pour eux, il est hétéro, il a des enfants, mais quand même, ils insultent un homme parce qu'ils pensent que c'est un sous-homme. Donc il y a tout un travail de pédagogie et c'est pas si simple que ça de prendre des sanctions, parce qu'on connaît, même nous, quand on porte plainte pour homophobie, parce qu'on s'est fait insulter de PD, des fois, c'est classé un peu sans suite, parce que c'est considéré qu'une injure, et on ne sait pas si vous êtes homosexuel ou pas. Donc, attention, la dernière mesure qu'ils ont prise, elle est excellente, bravo à eux, mais ils peuvent peut-être se refaire retoquer par un tribunal derrière. Donc, évidemment, il faut combattre ça, mais c'est pas si simple que ça.
Emmanuel Corcostegui, dans ce numéro spécial de l'équipe MAG, on en entend des supporters chez vous, en fait, et il y a un peu de ça, au fond, il y a l'idée qu'on se rend pas compte que c'est grave, et que ça s'adresse à des gens, c'est un peu ce que j'en ai retenu, moi, en fait.
Ouais, c'est sûr que le terme est malheureux, mais ça fait partie du folklore, c'est quelque chose qui a été habituel au fil des années, et il est temps que ça s'arrête, il est temps qu'il y ait une prise de conscience générale. Alors, oui, il y a eu des sanctions par le passé. La FIFA avait notamment mis des amendes à la fédération mexicaine pour les chants de ses supporters pendant la Coupe du Monde pour des chants homophobes. Il y a des choses qui avancent. Ça avance pas assez vite, ça c'est une certitude. Il faut espérer que que le débat soit un peu au centre de la table maintenant, ça fasse avancer un peu les choses. Ce qui est important aussi, c'est à mon avis, c'est de prendre des sanctions parce qu'il faut en prendre, mais c'est de pas stigmatiser non plus systématiquement le monde des supporters. Dans le monde des supporters, dans les associations européennes notamment, il y a beaucoup de gens qui ont envie que ça avance. Et dans le MAG, une des choses intéressantes à mon avis, c'était de donner la parole à un supporter d'Arsenal, qui est le président de la section LGBT des supporters d'Arsenal. Ils sont 800 quand même, donc ça représente quelque chose. Et là, peut-être qu'il y a un peu à s'inspirer du modèle anglais, parce qu'en Angleterre, dans chaque club de première ligue, il y a une section LGBT. Les stadiers sont sensibilisés à la question. Ils sont formés à cette question-là. Donc, c'est pas juste par les sanctions qu'on réglera le problème. C'est aussi
en fait, c'est intéressant parce que les Anglais sont les premiers à avoir réussi à lutter contre l'hooliganisme chez eux. C'est donc aussi les premiers, finalement, à arriver. C'est peut-être ceux qui connaissent le mieux leurs supporters. J'ai juste une question. J'ai vu que vous vouliez la parole, Cécile, dans un instant. Une question subsidiaire. Emmanuel Corcostegui, moi, je me demandais si pour vous, à l'équipe, en fait, là aussi, il y a un moment où on se dit c'est le moment d'en parler. Est-ce que vous êtes posé la question l'année dernière, il y a 2 ans, en vous disant pas maintenant, pas tout de suite, comment on décide? En fait, parce que il a échappé à personne que vous avez reçu des gens qui disent qu'ils vont se désabonner, etc. Je ne sais pas s'ils l'ont fait au fond, parce que c'est quand même sur Twitter que ça se passe et c'est quand même un monde de grande gueule qui n'agissent pas beaucoup au fond. Mais est-ce qu'à un moment on se dit ok, c'est le moment, parce que nous aussi, le premier journal sportif en France, on a ce rôle à jouer en fait.
Ce qui est sûr, c'est que cette année sportive a été vraiment marquée par des histoires d'homophobie et qu'on s'est dit que c'était trop, quoi. Enfin, que voilà, que la question devenait centrale. Il y a eu l'histoire de l'agression de Gareth Thomas, qui était un pionnier de la cause, mm-hmm. puisque le sportif peut-être le plus important à avoir fait son coming out, un rugbyman qui a fait ça il y a 10 ans, qui a été agressé dans la rue à cause de ça. Les réseaux sociaux ont aussi libéré la parole, et y compris la parole homophobe, chez certains sportifs, comme Israel Folau, la star australienne du rugby, ou Patrice Evra, l'ancien capitaine des Bleus, qui est devenu une sorte de guignol numérique et qui a tenu des propos homophobes. Et puis, il y a eu ce débat, voilà, des chants homophobes dans les stades qu'il faut régler. Donc on s'est dit que c'était le moment pour le faire. Et puis, la société avance, il y avait des actualités culturelles aussi, la sortie du film des crevettes pailletées mercredi, la sortie du documentaire de Johan la semaine prochaine. Voilà, donc c'était pour nous le moment de le faire. Et pour être honnête, on pensait pas que l'impact serait si fort.
Dans quel sens? Positif ou négatif?
Positif. Okay. Positif, mais que ça marquerait autant les gens. On pensait qu'en 2019, la question était un peu plus avancée. Mmh. Et je pense qu'on s'est peut-être trompé, parce que Sport Week, qui est un magazine de sport italien, il y a 3 ans, avait fait une très belle une avec deux rugbymen qui s'embrassent. Et nous, on fait 3 ans plus tard, voilà, un traitement différent, mais on pensait pas faire quelque chose de choc.
Cécile Chartrand, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, non, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Emmanuel sur la stigmatisation des supporters, faire attention quand même à ne pas tous les mettre dans le même sac, et notamment se rappeler qu'il y a quand même des groupes de supporters en France, à Bordeaux, au Red Star, ailleurs, qui sont engagés dans des actions de lutte contre les discriminations. Et se dire aussi que les actions de sensibilisation à mener, dont a parlé Nathalie Bois de la Tour, elles sont à réaliser non seulement auprès des supporters, mais aussi auprès des parents des joueurs, auprès des joueurs eux-mêmes, auprès des entraîneurs, auprès même des dirigeants de fédération.
C'est le sens de la question de Quentin sur franceinter.fr, et qui nous dit: est-ce que c'est au club, est-ce que c'est au stade de travailler plus? Alors vous allez me dire les deux, mon capitaine, mais qui là-dedans peut être le plus efficace, peut-être, Manuel Picot?
En fait, c'est un travail qui doit se faire dès l'éducation le plus tôt possible. Il faut qu'on arrive à parler de ce sujet. C'est un vrai tabou, l'homosexualité dans le sport. Ça revient sans doute à une longue histoire du sport, mais il faut commencer par là. Ensuite, lorsqu'on entre dans un club, on apprend normalement deux choses, qui est le respect et la justice. On apprend à respecter des règles, à respecter des coéquipiers, à respecter et la justice d'un arbitre, des règles, etc. Et donc là-dedans, il n'y a pas de place à autre chose que du respect, donc pas de place aux insultes. Et pour ça, les stadiers aujourd'hui, ils sont par exemple formés pour gérer les foules.
Au fond, la première ligne, c'est le stadier. Hein,
C'est-à-dire que l'homophobie, ça va commencer maintenant seulement, peut-être. En tout cas, je pense que c'est ce qui va être annoncé la semaine prochaine. Mais ça fait des années que ça existe. Et c'est là où ça a vraiment pris du retard. Et dans les fédérations, fédération française de football, il y a des choses qui ont été faites dans les formations des joueurs. Mais là aussi, pas fait avec les associations LGBT, en tout cas suffisantes. Il y a encore des choses à corriger là-dedans. Il y a des règlements qui ne sont pas les mêmes lorsqu'on est, qu'on fait un acte raciste et un acte homophobe.
Alors qu'aux yeux de la loi, homophobie, racisme, même combat. Donc,
c'est absolument la même chose.
Johan Lemaire, qui voulait intervenir, il y a un extrait là aussi, Johan, dans votre film, qui est très édifiant. Quand on pose la question à de très jeunes gens qui sont en centre de formation, ils ont des mots qui sont absolument terribles et confondants au fond d'une effroyable naïveté, je ne sais même pas comment on appelle ça, en fait.
D'ignorance.
Et d'ignorance terrible.
C'est tout à fait ça, c'est l'ignorance. Parce qu'ils se sentent pas concernés, ça n'existe pas, on n'en parle pas, c'est tabou. Il y a le côté vestiaire avec les douches, la sensualité. Alors tout de suite, ça leur fout la trouille. Mm-hmm. Puis le côté, voilà, on est viril, on est des vrais mecs, on n'est pas des tarlouses. Évidemment, ça revient. Mais Nathalie Bois de la Tour va l'annoncer la semaine prochaine. Elle nous a demandé, d'ailleurs, à moi, entre autres, de créer avec mon association des livrets pédagogiques et intervenir dans les centres de formation avec Olivier Rouillet notamment, et d'aller parler aux éducateurs, leur donner des outils, de les préparer aussi à des éventuels coming out, mais aussi à discuter avec les jeunes de temps en temps, ouvrir le débat, leur diffuser le film et faire la même chose avec les jeunes pour simplement discuter avec eux. Voilà, parce que en fait, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas, ça dérange. Et là, d'où le problème, hein, qu'on ne sont pas concernés. Ça n'arrive jamais des gamins ou des adultes annoncer leur homosexualité dans le foot. Donc à partir de là, pour eux, il n'y en a pas. Donc on continue à dire PD et dire des insultes pour s'amuser.
Emmanuel Corcostrégui, quelque chose qui m'a frappé moi dans le numéro de l'équipe, c'est Laurence Manfredi, donc qui parle ouvertement. Elle est lanceuse de poids, notamment elle l'était puisqu'elle a quitté la compétition. Ouais. Et elle dit qu'au fond pour elle ça s'est plutôt pas mal passé, grosso modo. Mais elle raconte quand même, et c'est fou de le raconter au fond comme si c'était normal, que je crois que c'était dans son premier club, je crois que c'est son entraîneur qui lui dit, je te préviens, s'il y a un problème dans les douches, je te vire. Bah ça s'appelle que ça s'est mal passé en fait, mais c'est fou de l'avoir intégré au fond, parce que c'est ça qu'elle nous dit, Laurence Manfredi, c'est qu'elle l'a intégré en fait.
Elle, son point de vue, c'est de dire ce que j'ai vécu dans le sport, j'aurais pu le vivre ailleurs dans la société. Ce type-là qui était homophobe, il aurait pu me dire ça dans la rue, me dire ça ailleurs. Donc pour elle, le problème, il est pas inhérent au sport, quoi. Mm-hmm. C'est son point de vue en tout cas. Elle dit aussi quelque chose de positif sur le sport, voilà, sur le sport facteur d'émancipation, sur le sport où c'est la performance qui compte et pas l'identité. Et évidemment, dans quelques réponses plus tard, on sent bien que c'est beaucoup plus problématique. Et elle explique aussi son point de vue, c'est de dire aussi que c'est chez les garçons, ça l'est beaucoup plus, que là le sport est en retard sur la société, qu'il y a des valeurs traditionnelles. Elle a une expression assez drôle. Un homme, une femme, un chien, le scénique, c'est ça le modèle de société qui est porté par ce milieu de masculin du sport et que c'est très difficile pour cette raison. Quoi.
Et elle parle très bien, cela dit, du jeune garçon qu'elle entraîne aujourd'hui, avec lequel ça se passe heureusement très bien. Cécile Chartrain là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, quand on s'est parlé hier ou avant-hier au téléphone, je vous ai dit, moi j'ai l'impression que c'est plus facile chez les filles que chez les garçons, et vous m'avez dit, mais pas du tout en fait.
J'ai été frappée, Fabienne, comme vous, par cette interview de Laurence Manfredi, que j'ai trouvée très bien par ailleurs. Elle dit plein de choses intéressantes. Mais je crois quand même qu'il y a cette attitude où les femmes sont tellement habituées à subir des comportements sexistes et discriminants et à ce qu'on leur dise de se taire. En fait, je pense qu'elles ont intériorisé souvent cette injonction et qu'elles ont tendance à ne pas reconnaître les comportements sexistes ou homophobes pour ce qu'ils sont. Donc voilà, ça m'a frappée, mais par ailleurs, j'ai trouvé l'entretien intéressant encore une fois. Pour ce qui est de l'homophobie dans le sport féminin, effectivement, on n'en parle jamais. C'est une question qui est rarement posée aux sportives. Déjà parce que la couverture médiatique du sport féminin, elle est plus faible que celle du sport masculin. Ouais. Et puis parce que la lesbophobie, comme tout ce qui concerne les femmes et les problèmes des femmes, beaucoup de gens s'en fichent. Mais on connaît par exemple beaucoup mieux l'histoire de John Fashanu, que vous avez raconté encore une fois dans l'équipe, ce footballeur homosexuel qui s'est suicidé dans les années 80. Mm-hmm. Mais qui connaît par exemple l'histoire de Yudi Simlane, cette ancienne joueuse de l'équipe d'Afrique du Sud, qui a été victime d'un viol collectif correctif et assassinée en raison de son orientation sexuelle. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un problème de visibilité auquel contribuent aussi malheureusement les médias.
Mais pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment que c'est plus facile chez les filles que chez les garçons? Et c'est tellement intégré que même Laurence Manfredi effectivement le dit. Donc pourquoi on a ce sentiment-là? Ça sort d'où?
Je crois que ça vaut notamment dans les sports collectifs, parce qu'il y a cette idée répandue qu'il y aurait beaucoup de lesbiennes dans les sports collectifs et notamment dans le foot. C'est une idée qui, à mon avis, correspond d'ailleurs à une certaine réalité. Je vais pas utiliser la langue de bois ici. Tout simplement parce que je pense que les lesbiennes ont un rapport aux normes de genre qui est plutôt plus transgressif que la moyenne. Donc elles vont peut-être se diriger plus facilement vers des sports dits masculins. Mais après, le problème, c'est que les fédérations, les clubs, et en particulier les clubs de foot, répondent à cette idée commune que voilà, footballeuse égale lesbienne, en essayant de rassurer à tout prix sur la féminité des joueuses. Alors ça passe par, on incite, ça se voit, il y a sur 23 joueuses sélectionnées en équipe de France, il y en a 23 qui ont les cheveux longs, qui jouent maquillées, ongles peints quasiment. Donc il y a des formes d'injonction à la féminité.
On leur a fait de nouveaux maillots d'ailleurs, et paraît que c'est la première fois qu'il y a de vrais maillots spécifiques à l'équipe de France féminine qu'avant. Voilà, il paraît que c'était les mêmes que ceux des mecs avant. Ce que j'ignore.
Mais en général, c'est comme ça, ouais. Là, on cherche à tout prix à distinguer. Et effectivement, on cherche à rassurer sur la féminité des joueuses. Mais en même temps, même si ça n'est pas dit explicitement, on cherche à rassurer sur leur hétérosexualité. Et on ne met en avant que des joueuses qui sont dans le même modèle d'une féminité traditionnelle, ce qui ne veut pas dire que toutes les lesbiennes sont masculines et que toutes les hétéros sont féminines. Mais bon, vous voyez bien qu'il y a un enjeu, là, au niveau de l'affirmation des normes de genre.
Arthur, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Arthur, on vous écoute.
Alors, moi je constatais que régulièrement lors de grands événements sportifs, il y a des communications officielles de
de la FIFA ou de l'UEFA qui sont organisés comme des pubs, des slogans, des banderoles, des événements d'avant-match qui dénoncent justement l'homosexualité, qui promeuvent le respect, etc. Est-ce qu'on peut envisager que de telles communications ou quelque chose soit organisé contre l'homosexualité prochainement, parce que j'avoue ne pas en avoir déjà vu.
Merci beaucoup pour cette question, Arthur. Oui. Manuel Picot, est-ce que...
Je pense qu'il voulait dire contre l'homophobie.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Contre l'homosexualité.
Ah, j'ai pas entendu. Oui, il voulait dire contre l'homophobie, ouais, pauvrette. Allez-y. Donc, oui, est-ce qu'il y a des choses qui sont réellement prévues à grande échelle, on va
alors,
dire.
Je suis pas dans le secret des dieux. Peut-être Johan saura ce qui est prévu.
Je crois qu'Arthur est mortifié au moment où on se parle. Allez-y.
Mais a priori, ce qui devrait être fait, en tout cas, moi, c'est ce que je préconise, c'est qu'il y ait des vidéos qui soient faites effectivement en ce sens avant tout match, tout début de match, et qui ait un mois de la fierté LGBT dans l'ensemble des compétitions de sport dans notre pays, comme ça se fait dans le monde anglo-saxon, et qui ait une manière, au moins une fois par an, de parler de ce sujet de manière décomplexée et de manière simple, pour que on puisse partager des expériences. Et le numéro de l'équipe pourrait tendre à mettre cette
idée... Il faut le distribuer partout, ne le vendez pas. Distribuez-le partout.
C'est un bon démarrage, quoi. On va enfin parler de ce sujet sur le fond et donner des exemples, expliquer ce que c'est que d'entendre une insulte. Parce que je crois que c'est ce qu'on ne maîtrise pas suffisamment. C'est que lorsqu'on se construit, entendre les mots de PD, de Tarlouze, etc., et qu'on est en réalité homosexuel, c'est extrêmement difficile à vivre. Et il faut se rappeler que quand même les jeunes sont la population, les jeunes gays sont la population qui suicide le plus, et ça vient aussi de cet environnement-là, c'est-à-dire qu'une société qui semble ne pas accepter l'homosexualité comme quelque chose qui intervient de manière assez normale.
Emmanuel Kourgostegui, pour répondre à ce qui vient d'être dit, et il y a cette question de Didier de Nogent-sur-Marne qui ajoute: quel rôle pour les sponsors? Y aurait-il un jour un sponsor qui serait suffisamment culotté pour afficher ouvertement son soutien à un joueur gay ou faire un vrai geste dans ce sens-là?
Ce que disent pas mal d'acteurs de la question et du marché économique notamment, c'est que oui, les sponsors sont prêts aujourd'hui à financer, à accompagner un sportif qui oserait, enfin de renommée mondiale, qui oserait faire son coming out, quoi. La question du coming out, elle est d'autant plus étonnante aujourd'hui, quoi. Pourquoi aucun joueur des championnats majeurs, des joueurs masculins de foot n'ont fait leur coming out?
Et alors féminin, hein, c'est pareil, féminin, chez les filles.
Féminin aussi, ben alors.
Sauf Megan Rapinoe, par exemple.
Oui, voilà, mais pas chez les Françaises, en tout cas, pas de coming out.
Et voilà, ça quelque chose qui nous a surpris sur l'accueil positif globalement très positif de notre numéro, c'est que le monde sportif l'a assez peu partagé en fait, sur Twitter ça a été massivement reconnu comme positif, mais aucun sportif, aucun club, aucune fédération ne l'a partagé. Je pense que ça dit effectivement le poids de l'omerta, et puis ça dit la consensualité qui est devenue la norme de la communication du sportif, qui a peut-être peur de se priver de certains marchés, de certains pays, en affichant son homosexualité.
Johan Lemaire, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que là aussi, dans votre film, moi j'ai été frappé. On entend, on voit des sportifs aujourd'hui, on voit des Griezmann, on voit des gens comme ça qui en parlent, et en même temps, le dénoncent-ils aussi fortement qu'ils dénoncerait des actes racistes? Moi, c'est pas trop ce que j'ai senti, en fait.
Non,
est-ce qu'il y a un sportif aujourd'hui qui n'aurait pas peur, parce que c'est comme ça que ça se situe, en fait, de dire moi, je soutiens un tel qui est gay, et même de dire aux supporters: arrêtez avec vos chants ridicules. Est-ce que quelqu'un réellement le dit?
Alors, actuellement, il y a les anciens joueurs du Variété Coupe de France, par exemple, les champions du monde 98, eux, ils le font.
Et le Variété le fait, on le voit bien dans votre film, ouais.
Voilà, c'est une prise de conscience un petit peu instantanée de poser la question aussi, parce qu'ils ont jamais ils se sont jamais posé la question avant. Concernant Antoine Griezmann, il y a aucun doute, il était très sincère.
J'ai aucun doute totalement... sur leur sincérité, moi, quand je les entends, aucun doute. Mais ce qui me frappe, c'est jusqu'à quel point on y mouille sa chemise, en fait, dans ce qu'on dit.
C'est compliqué pour eux aussi, parce qu'il faut rappeler que le foot, c'est quand même mondial, donc vous pouvez aussi avoir des sponsors qui viennent de pays où c'est que l'homosexualité, c'est interdit, ou même des fois, voilà, c'est catastrophique même, hein, on pense au Qatar, on peut penser à la Russie. Donc les footballeurs, ils vont aseptiser un petit peu leur réflexion sur cette question, sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils ne savent pas, comme c'est tabou, si ils vont se lancer dans des discussions là-dessus, plein de journalistes peuvent reprendre, parce que ça serait génial, mais il y a un moment, ils ont peur de dire une connerie, d'avoir des associations qui leur tombent dessus ou des supporters qui se foutent d'eux. Donc, si vous voulez, ils prennent pas de risques, ils font le minimum. Et moi, il y a beaucoup de refus des grandes stars, des joueurs du PSG, des joueurs de l'équipe de France qui ont refusé pour ces raisons-là.
De parler d'autres dans votre film, vous voulez dire, Yoann Lemaire ?
Oui, pour parler dans le film, simplement dire pourquoi il n'y a pas d'homosexuels dans le football, enfin des trucs simples, sans prendre position claire, nette, précise, des questions très très simples. Et il y a des grands noms qui ont accepté, mais qui étaient bloqués par leur agent, leurs avocats ou le club, pour dire non, tu vas pas parler d'un truc comme ça, enfin c'est gentil, mais t'en parles pas. Donc si vous voulez, ça reste compliqué. Moi j'ai essayé tous les clubs de Ligue 1, on les a contactés comme on a pu, les joueurs, enfin tout le monde. Il y a qu'Antoine Griezmann qui m'a invité chez lui pour en parler. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Et les autres, ils sont pas homophobes pour autant, pour une grande partie, mais ça coince. Ils ont peur de la communication, ils ont peur de dire une connerie parce qu'ils maîtrisent pas, et puis qu'une association comme on en connaît qui hurle pour un oui, pour un non, ils le disent ça les mecs, il faut s'en rendre compte. Donc les associations qui hurlent à tort et à travers, c'est bien des fois de dire les choses aussi, attention, lanceur d'alerte, mais ça fout les jetons à des mecs qui osent pas prendre trop la parole aussi, vous voyez. Donc il faut un juste milieu, il faut essayer de ménager un peu, de coller quand c'est utile, mais aussi de à nous les associations, j'entends Manuel et tout le monde autour de la table, d'appeler ces joueurs, de les motiver à parler. Moi j'ai encore passé la journée à essayer d'avoir une personne de l'équipe de France pour prendre position la semaine prochaine, mais il faut le faire tout le temps. Et voilà, il faut qu'on s'y mette tous. C'est la meilleure des moyens, l'exemplarité.
Cécile Chartrain.
Oui, alors moi je pense aussi que c'est important de trouver des alliés pour notre cause, et pas seulement des joueurs qui vont être, ou des joueuses qui vont être capables de faire leur coming out, qui vont se sentir surtout équipés, rassurés, avoir des outils pour le faire. Et d'ailleurs, je noterai qu'on avait proposé avec les dégommeuses il y a quelques années une démarche qui aurait pu être celle d'un coming out collectif, qui aurait permis à la fois de minimiser les coûts individuels du coming out.
C'est-à-dire tout le monde à la fois ou toute l'équipe à la fois
Pas forcément toute une équipe, mais se mettre en relation avec plusieurs personnes qui hésiteraient à faire leur coming out, des sportifs et sportives de haut niveau, et leur expliquer que collectivement, peut-être, les risques seront plus minimes pour eux et en même temps, l'impact médiatique plus fort. Mais pour en revenir à Griezmann & Co, je trouve plutôt appréciable qu'il ose déjà lui parler sur un sujet où quasiment personne ne s'exprime. Mais quand même, quand on parle de risque, alors que Griezmann a tout gagné, qu'il a assuré la survie de sa famille pour au moins 5 générations, je pense. Enfin, je trouve que voilà, il y a un moment donné, il faut aussi pousser un peu, se donner des coups de pied au cul, et que c'est pas être trop exigeant, c'est juste essayer de faire avancer un peu le monde du sport comme la société, et qu'on en a besoin.
Yoann Lemaire, puisque vous voulez répondre, on vous écoute. Allez-y, Yoann.
Oui, bien sûr. Non, mais le risque, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a aucun risque, d'accord. Mais ils sont en train de se dire, les mecs, pourquoi nous, pourquoi moi ? Voilà, pourquoi moi en parler ? Pourquoi pas un autre ? C'est la grande question. Pourquoi moi je le ferais alors que personne d'autre le fait ? Je vais être le seul à le faire. Tout le monde va me poser plein de questions. Donc évidemment qu'il n'y a pas un risque physique ou financier parce que c'est des grandes stars. Et je trouve que voilà, ils risquent rien. Je suis plus sceptique par rapport à un grand nom du foot qui serait homosexuel et qui le cache. Là, c'est à eux aussi de montrer l'exemple et de dire, bah écoutez, moi je suis homo, je suis un des meilleurs joueurs du foot du monde, je le dis, et maintenant je continue à mettre des buts. Lui, les médias, heureusement qu'ils sont là, ils seront toujours là pour le protéger. Je suis persuadé que des partenaires, c'est Adidas, Nike et tout ça, le feront aussi, les dirigeants, les politiques aussi. Donc moi je pense que on est proche d'un coming out, mais J'en veux plus à ces gens-là, moi, qui n'osent pas le dire.
Et on me fait remarquer d'ailleurs sur Twitter que Nike aux États-Unis, sponsorise toujours et sponsorise bien un ou des joueurs homosexuels. Je ne sais pas si c'est un ou plusieurs, à vrai dire, j'en
plusieurs,
sais rien.
Hein, je crois. Oui.
Mais c'est Nike aussi d'ailleurs qui continue à sponsoriser le joueur de football américain qui mettait son fameux genou à terre, etc. Ouais. Donc il y a aussi une vraie politique là derrière de la part de Nike. Cécile Chartrain, juste avant de refaire un aller-retour au Standard.
Oui, je voulais quand même citer aussi le nom de Lilian Thuram, qui s'est engagé déjà il y a plusieurs années. Voilà, lui-même, il avait accepté de parrainer une action des dégommeuses il y a quelques années, qui visait à parler de la question des viols correctifs, des violences donc subies par les lesbiennes. On n'avait trouvé aucune joueuse pour nous soutenir parce qu'elles avaient peur de cet étiquetage lesbien. Donc vous voyez l'ampleur du problème. Oui. La question, c'est aussi celle de la dépolitisation des sportifs et des sportives en France. On voit bien quand on lit les interviews que voilà, au-delà de la question de l'homosexualité, ils ont du mal à s'exprimer sur des questions sociales. Mais en même temps, Imanol, tu me rappelais en coulisses que il y a des types et des nanas engagés sur des sujets de société et qui n'ont pas relayé la couverture de l'équipe cette fois-ci. Donc il y a certainement des craintes encore une fois de l'étiquetage.
Oui, ce qui veut dire, enfin après c'est, on parle Antoine Griezmann, Paul Pogba, Olivier Giroud, on dit que un coming out dans le foot serait souhaitable. Donc ça avance pas d'escargot, mais ça avance.
Allez, je voudrais qu'on aille faire un petit aller-retour au Standard, retrouver Julia. Bonsoir, Julia.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Moi, je voulais témoigner d'un problème de discrimination plus largement dans le football. J'ai mon garçon qui a 8 ans et qui a débuté cette année dans un club. Et un petit garçon a été mis de côté parce que, sans que ce soit franchement dit, mais parce qu'il est simplement, il était gros. Et du coup, comme il est en courant moins vite, il ferait pas gagner l'équipe. Donc on le mettait pas sur le match. Et donc ça c'est pour en avoir discuté avec le coach. On vous le dit, alors c'est pas très beau de le dire, mais entre deux, très discrètement, on vous avoue que oui, c'est vrai. À 8 ans, on peut vous mettre de côté parce que vous êtes gros. Mmh. Et donc j'imagine que si on discrimine des enfants à 8 ans, on peut les discriminer plus tard pour leur genre ou leur attirance sexuelle. Voilà, c'était surtout ça qui me... Et je suis révoltée ce soir par tant d'ignorance.
Merci beaucoup pour votre appel, Julia. Et elle a raison, Julia, Manuel Picot, c'est aussi ce qu'on disait précédemment. Ça commence tout petit et ça commence sur toute forme de discrimination. Parce que si effectivement on commence à écarter un gamin simplement parce qu'il est un peu plus gros que les autres, on peut pas imaginer ce qui va se passer derrière, effectivement, si il est ouvertement gay ou etc. Ça commence vraiment là.
En fait, on parle d'un sport qui est normatif. Et basé sur la surperformance de sélectionner des champions. On est tous dans une culture olympique, du plus haut, plus fort, plus loin. Et du coup, dans ce dit sport, on ne veut que les meilleurs. Et ça, c'est la première étape de la discrimination. Pourquoi est-ce que les jeunes filles, les jeunes garçons font du sport séparé très jeune, alors que leur constitution physique leur permettrait de faire beaucoup plus longtemps du sport? Pourquoi est-ce que on pense que le sport n'est que compétition de haut niveau? Le sport, il s'adresse à tout le monde. Il faut être un vrai espace de convivialité, de vie ensemble. Et du coup, tous les physiques sont les bons. Toutes les orientations sexuelles le sont. Et puis, j'ai terminé par une petite image.
Allez-y.
Vous savez que dans la danse ou le patinage artistique, on ne voit danser que des hommes ensemble, enfin non, un homme et une femme, des couples mixtes. Mm-hmm. Pourquoi pas, comme au Gay Games, faire des couples de même sexe? Et ça aussi, ça change le regard sur la diversité, sur les orientations sexuelles.
Et alors, je vais poser la question qui fâche. Aujourd'hui, telles que les instances sont faites, est-ce que ce serait légal s'il y avait deux hommes ou deux femmes qui dansaient ensemble en patinage artistique?
Alors, en patinage artistique, les règlements internationaux ne le permettent pas par la plus importante des fédérations de patinage. Mais pour les Gay Games, ils ont donné pour la première fois en 2018, les Gay Games, ça existe depuis 1982. Ouais. Seulement en 2018, pour la première fois à Paris, ils ont accepté que les participants puissent participer aux Gay Games en couple de même sexe.
Et justement, tiens, il y a une question juste pour vous qui vient de Scarlett à Sarcelles qui nous dit, au lieu de tenir bon dans la lutte contre l'homophobie, pourquoi fait-on justement des Gay Games qui finalement sépare les LGBT des compétitions alors que tout le monde devrait pouvoir se retrouver.
Alors en fait, c'est justement un événement le plus inclusif au monde puisque tout le monde est bienvenu sans aucune sélection, quel que soit l'âge, de 18 à 99 ans. C'est un événement qui est porté par la communauté LGBT pour casser les barrières, montrer que finalement l'orientation, l'identité de l'orientation sexuelle, l'identité de genre n'ont pas une si grande importance que ça dans le sport, que l'on peut trouver des moyens de faire du sport ensemble, qu'on peut réinventer le sport ensemble et faire en sorte que ce soit un événement convivial où l'essentiel c'est de participer, d'inclure et de faire le meilleur de soi-même.
Magali, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute,
bonsoir
Magali, allez-y.
Oui, alors je voulais simplement apporter un témoignage supplémentaire à tout ce que vous dites qui est très juste. Alors moi, je pratique le rugby féminin dans un grand club. Et effectivement, la question de l'orientation sexuelle au rugby féminin est très développée, mais surtout à l'extérieur en fait de l'équipe. Et ça intrigue complètement les gens. Je suis moi-même hétéro, mais il m'arrive très régulièrement d'être confrontée à cette question. Mais tu fais du rugby, mais c'est très masculin. Mais
donc
tu es
gay.
Femme. Donc, ouais, exactement. Et c'est très dommageable de voir à quel point l'orientation sexuelle dans l'imaginaire commun, enfin, prend une telle place. C'est encore incroyable. Alors on se bat pour montrer que ça n'a pas sa place dans le sport, que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la fraternité, c'est la cohésion d'équipe et l'orientation sexuelle, c'est pour soi-même, c'est pour l'extérieur, ça n'a pas sa place dans le sport ni dans les vestiaires.
Merci voilà. Beaucoup pour ce témoignage, Magali. Cécile Chartrain, les clichés, on l'a vu dur, en fait, dans tous les sens du terme, hein, quel que soit le bout par lequel on essaye de prendre les choses, au fond.
Alors, il faut lutter contre les clichés, et en même temps, s'il y a des lesbiennes dans le sport, et notamment dans le sport co, il faut se dire aussi que c'est pas grave, même c'est peut-être chouette, et que il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Donc, je milite pour ça, pour que tout le monde ait sa place dans tous les sports possibles.
Ce pourquoi nous militons tous, évidemment. Il y a une question pour vous, Emmanuel Korkostecki, je sais pas si ça a été corrigé ou pas, je ne sais pas. Après avoir appris la parution de cette une il y a quelques jours sur votre antenne, il parle de la nôtre, j'ai voulu la voir, nous dit ce monsieur, sur France Inter. Je me suis connectée sur le site de l'équipe et j'ai constaté que la une du 1er mai était supprimée. L'édito aussi, qui contenait les mots « cette une dont nous sommes fiers ». Est-ce que l'un des intervenants peut nous expliquer ? Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu saute de, comme ça qu'on puisse rassurer ce monsieur qui
je
retourne,
pense
il a
de regarder. C'est vraiment un bug technique qui contacte les équipes de l'équipe, parce que non, il n'y a eu aucune histoire de ce genre.
Eh ben écoutez, voilà, comme ça au moins c'est clair pour notre ami. Merci beaucoup, merci vraiment à tous. Johan Lemaire, je rappelle que votre film « Footballeur et homo au cœur du tabou » c'est publié, c'est diffusé sur France 2 le 14 mai prochain dans l'émission Infrarouge. Et je conseille à chacun vraiment de regarder ce documentaire. Merci beaucoup, merci à tous et merci pour vos nombreux appels. Portez-vous bien.